Et nous sommes dans les airs, dans les ondes. Bonjour à toi, Duracell.
Salut, moins fort.
Aujourd'hui, une émission enfin, nous allons faire sur le rétro gaming.
Des jeux de mon âge, quoi.
Ouais, de mon âge aussi, parce que bon, hein, on est
ouais, t'as joué à Space Invader sur borne, toi? T'as joué à Dragonfield sur borne, toi?
Non.
T'as joué à Astéroïde sur borne? À Kangaroo?
Non. Ce qui révèle sur toi, Duracell, que tu es assez âgé, hein. On a mis ton déambulateur près de la porte.
Et toi, la poussette, elle est de l'autre côté.
Merci, je prends ça comme un compliment.
Ouais. Entre l'âge et l'ange, tout.
L'âge et le l'ange, hein, parce que le l'ange, ça fait gagner de l'âge. Oui, j'ai un enfant et oui, je fais des toutes petites nuits. C'est ce qui explique mes lourdes serres.
Et parfois, je dis à sa femme, alors ça va, toi, avec ces deux enfants?
Oui, le gros et le petit. Alors, nous enregistrons avec un public aujourd'hui, enfin un public, littéralement au singulier.
On a...
Voilà.
Heureusement qu'on n'est pas en match d'impro, il nous aurait déjà lancé des pantoufles à la gueule.
C'est nul. Une émission particulière aujourd'hui, alors à chaque fois je dis ça, à chaque fois c'est particulier, mais à chaque fois il y a une raison pour laquelle ce soit particulière, c'est que ça fait longtemps que nous préparons cette émission. Parce que c'est un thème qui nous tient à cœur.
Et ça fait longtemps que nous ne la préparons pas, surtout, oui.
Non, mais c'est un thème récurrent. C'est vraiment un thème récurrent dans toutes nos conversations. Parce que, il faut le dire, hein, nous sommes des anciens. Surtout pour le jeu vidéo, on est des anciens. On a connu une époque avant la 3D. Moi, je me rappelle, quand il y a eu la PlayStation qui était sortie, le simple fait que ce soit en 3D, c'était un truc de fou. Même les CD de présentation, c'était un truc de fou.
Mais moi, je connaissais déjà des jeux en 3D vieux, genre par exemple Spin Dizzy en 86 sur Commodore 64 qui était en 3D ISO et qui était remarquablement rapide pour l'époque aussi. Ça, c'était une sorte de platformer 3D où tu devais déclencher des ascenseurs, des éléments de décor, etc. Et qui était assez fou. On vous mettra peut-être un exemple de gameplay de Speed Dizzy, mais pour moi, c'est un jeu qui est complètement hallucinant et hors sol par rapport au Commodore 64, qui, à l'époque, était la bécane la plus puissante de l'univers.
Oui. Et quand on regarde les spécificités maintenant du Commodore 64, qui est à des années-lumière moins puissant qu'un 3310.
Oui. Mais avec un 64, tu pouvais déjà faire quelque chose. Tu pouvais déjà piloter des antennes. Tu pouvais déjà faire de la domotique. Hein.
Oui.
C'est assez fou.
Non, mais il y a toujours eu un lien entre l'industrie du jeu vidéo et domotique, médicale. On se rappelle d'ailleurs que la Game Boy fournissait son écran de Game Boy à des scanners, à des machines d'imagerie médicale, parce que c'était un écran qui était pas cher et efficace. C'est-à-dire que on pouvait soigner en regardant un écran de Game Boy. Rien que pour l'anecdote, voilà.
Et puis, le Commodore 64 avait abrité aussi un multi-user dungeon à l'époque sur modem. Imaginez, en 83-84, c'était Quantum Link qui l'avait sorti, entre autres, et LucasArts. Et ça s'appelait, devinez quoi, ça s'appelait Habitat. Et les gens qui se connectaient là, les utilisateurs, on les appelait des avatars. Ouais. Et ça vient de là.
Alors, techniquement, le mot avatar, ça vient de l'hindou. Hein,
oui, mais je vous renvoie à l'extraordinaire série de vidéos sur LucasArts de Mea. Qui est incroyable. Je sais toujours pas comment Yel trouve des docs comme ça, complètement fous.
Ouais, c'est une collectionneuse
émérite.
Émérite parce qu'à chaque fois le décor complet derrière elle change avec tous les bouquins et tous les tous les trucs. Donc, il y a vraiment une passion.
Et croyez-nous, ce n'est pas un fond vert.
Non, ce n'est pas un fond vert. Ça se voit. Mais on n'est pas là pour parler de ça.
Quoique.
Non, mais oui, je sais, de toute façon, le concept de Tâton Ordi.
Non, mais c'est quelque part, on est déjà touché à du rétro gaming, là.
Oui, en parlant du 64, voire de la 64. C'est de masculin à féminin, on parle de
mais les plus, et les plus récentes.
Eh non, en 96. Hein, ouais. Le rétro gaming, c'est quelque chose d'assez paradoxal, je vais dire, que l'on considère que c'est une catégorie de joueurs qui sont des catégories rétro, alors que on ne dit pas pour la littérature qu'on est un rétro-lecteur.
Non, mais on dit quelqu'un qui connaît ses classiques. Hein. Ceux qui ont lu l'intégralité de la recherche du temps perdu de...
On te dit au revoir.
Très bonne journée,
bien sûr à vous. Notre public. Unique public.
93 Paris, ouais.
10-24 représente.
Représente Zivan, quoi.
Ouais.
Allez les gars, quoi.
1-0-2-0 Renan.
Bonne journée, quoi.
Bonne journée. Le fait d'avoir notre QG au même endroit pendant très longtemps, ça nous fait nouer des liens et nous avons un certain petit public. Je reviens sur le rétro gaming.
Petit mais costaud.
Exactement. Le rétro gaming. Si on doit lui donner une définition, puisque c'est une catégorie à part, comment pourrait-on définir le rétro gaming?
Alors, il y a 3 ou 4 définitions qui se courent après, et c'est pas pour rien que j'ai dit à Octorius que un des titres de travail du podcast d'aujourd'hui sera le rétro gaming au-delà des définitions, parce que c'est la bouteille à la mer, vraiment. Alors, ceux qui veulent être stricts, et Dieu sait que j'en ai me faire partie, des gens stricts, hein, la férule, le bâton, l'ordre, la discipline.
Hein. C'est tout toi, ça.
Oui, mais pas pour moi-même. Donc,
c'est ce que je dis, pas ce que je fais.
Absolument. Donc, le truc, c'est quoi? On va mettre une frontière presque artificielle. Mais on verra que c'est quand même assez pertinent, suivant que le rétro gaming, en fait, s'arrête à la fin de la 4e génération de consoles. Donc, la PlayStation 1, ouais, qui ne s'appelait pas à l'époque la PlayStation 1.
Qui s'appelait la PlayStation.
Alors, n'achetez pas la GameStation. C'est un produit...
C'est une arnaque.
Et c'est magnifique, ça. Je crois qu'il y avait Spyro le Dragon qui avait sorti un épisode qui s'appelait Console de merde.
Oui, bref.
C'est
ce qu'on trouve dans les marchés qui sont des contrefaçons. Mais ça, c'est...
C'est incroyable. Non, mais c'est parfois incroyable le culot qu'ont certaines personnes de se commercialiser ça. Par contre, la PlayStation, oui, joli succès à l'époque.
Oui. Oh, oui, c'est un joli succès, oui.
Le CD non copiable, parce que voilà. Mais on arrivait après à le copier. Je vous renvoie à l'émission de Sakaru sur comment est-ce que Nyanyanya a fait tomber la protection de la PlayStation 1.
La fin des années 90, entre 95 et 2000, ça a été une vraie rupture dans le jeu vidéo pour deux raisons. Déjà,
le saut technologique.
On est passé pour la première fois à échelle industrielle, parce qu'il y a eu des jeux 3D avant la PlayStation, évidemment, et en particulier sur les bornes d'arcade, mais qui étaient des machines énormes et entièrement dédiées à un seul jeu.
Ou encore, c'était de la Vecto, genre Tempest.
Non, alors oui, ça pouvait être de la Vecto. Il y avait aussi des tentatives un peu de tricherie en utilisant des sprites sur une projection d'un film.
Ou des lunettes anaglyphiques, hein, bleu-rouge.
Voilà, mais on va dire que c'était à l'époque un petit peu triché et parfois c'était effectivement, il y a eu via, par exemple Virtual Racing qui est avant 95 et qui était de la vraie 3D avec des vrais polygones.
Mais la cartouche était boostée.
Voilà.
Vous voyez la taille normale d'une cartouche et vous voyez la cartouche de Virtual Racing, vous vous dites c'est quoi ce machin? C'est un suppositoire pour l'éléphant?
C'est comme si on vous dit qu'un humain peut aller jusqu'à 50 km/h. Non, Usain Bolt peut aller jusqu'à 50 km/h.
Et encore. Oui. Et donc, c'était.
Non, mais j'ai pas dit. Attends,
les cartouches de Virtua Racing, c'était un véritable dopage technologique parce qu'elle embarquait dedans une puce incroyable.
Oui, c'est le DirectX.
Non, DirectX, ça c'est une norme Microsoft qui est apparue sur Windows 95-98 pour permettre justement plus facilement de programmer des effets pour des jeux.
Je voulais juste revenir dans cette fin de décennie. Il y a eu donc ce passage à la 3D qui a été radical, qui a changé la totalité des jeux vidéo, enfin, l'écrasante majorité des jeux vidéo qui sont sortis après 95 ont été quasiment tous en 3D. Il n'y a que la Saturn qui n'avait pas compris, Sega n'avait pas compris qu'il y avait la révolution 3D. Il a fallu rebooster la Saturn pour qu'elle soit adaptée pour la 3D, ce qui a été une horreur pour les programmeurs.
Oui, bon, Bonnet Dan, on peut aussi en décerner un magnifique Nintendo qui est resté sur la cartouche. Ce qui fait que Squaresoft pour Final Fantasy VII s'est barré de chez Nintendo pour aller chez Sega parce que leur jeu Final Fantasy VII était sur 4 CD.
Ça aurait pu.
Bon, je t'explique pas la taille du bonhomme, mais ça aurait pu tenir. Mais les musiques n'auraient pas été interactives.
Ouais.
Comme ça, par exemple, en Final Fantasy VII, dès que tu changes de scène ou dès qu'il y a un combat, la musique change immédiatement. Bon, c'était aussi parce qu'ils avaient fait les musiques en MIDI et pas en qualité CD. C'était un choix audacieux, mais bien suivi. Et franchement, si vous voulez écouter des musiques de Final Fantasy VII, écoutez les réorchestrations, écoutez et ça va mieux.
Les réorchestrations sont souvent magnifiques et Final Fantasy est assez connu pour avoir des fois dans des conventions de véritables musiciens qui refont les musiques. C'est fantastique. Il y a, à mon avis, et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi.
Jamais.
Non. ce qui a permis le rétro gaming, parce que jusqu'en les années 90, à part quand il y a eu la réédition des classiques de l'arcade à la fin des années 80 sur les consoles,
c'était sur les PC,
mais c'était les fabricants qui faisaient eux-mêmes des petits packs de nostalgie.
Non, il y avait aussi, par exemple, des margoulins sur téléphone portable qui faisaient des portages complètement à chier de...
Mais c'est les années 2000.
Non. Déjà 95 avec les Nokia, etc. Prince of Persia sur téléphone mobile.
Oui, mais justement, ça vient de ce que je vais dire. Les émulateurs, à partir des années 90, à partir des années surtout 95-2000, les ordinateurs étaient assez puissants pour refaire le fonctionnement de consoles, surtout les consoles classiques.
Oui.
Surtout NES,
mais là c'était mais là je parle de portage bâclé et de qualité très inférieure sur téléphone portable.
D'ailleurs le téléphone portable de par sa faible capacité d'affichage a malgré lui contribué à faire émerger la mode du pixel art
et à faire réémerger certains vieux jeux genre
oui.
Snake.
Ouais.
Snake! Non, pas celui-là.
C'est tout à fait. Il faut vous souvenir que dans un temps, les téléphones portables affichaient toujours des jeux qui étaient préprogrammés dedans. Je crois d'ailleurs que, je sais je crois, pour le 3310, c'était possible de télécharger d'autres jeux, mais c'était des jeux... C'était des jeux d'arcade, en fait. C'était des jeux d'arcade des années, du début des années 80. Mmh. On était déjà dans le rétro gaming sans vraiment le vouloir, parce que c'était, il y avait une capacité limitée du téléphone. Tout était compacté, il n'y avait pas de...
Et donc, ce qui a causé l'essor du jeu vidéo et qui a mis une frontière entre jeux, on va dire, trois genres de jeux, le rétro gaming, les jeux anciens et les jeux modernes, c'est en fait la capacité de stockage, déjà. Ensuite, la capacité sonore des bécanes, qui était juste monstrueuse.
Oui, même s'il y avait eu, par exemple, le Sega CD qui passait outre ça, puisque en fait, c'était simplement un CD de musique qui se programmait.
Oui, on va dire que le CD était hybride. Il y avait une piste pour les données du jeu,
oui.
et 11 ou 12 pistes pour les musiques du jeu.
C'était un add-on et c'était un petit peu de la triche. C'était un truc en plus.
Oui, mais la Neo Geo faisait ça aussi.
Oui.
La Neo Geo CD.
La Neo Geo CD qui était un peu la console de luxe de l'époque.
Oui, et qui était juste le portage, console de la bande d'arcade Neo Geo qui était au mon Dieu.
Oui,
qui était au mon Dieu.
Les bandes d'arcade Neo Geo étaient à l'époque des bandes d'arcade de luxe. C'était vraiment de très beaux jeux qui se faisaient à l'époque.
Samurai Spirit.
Mais oui. En ce début d'année 2000, il y a eu malgré tout une nostalgie pour avant la 3D, et on avait les moyens de faire tourner de vieux jeux, et surtout...
Mais pas tous, c'était la croix et la bannière, mais vas-y.
Mais surtout, c'était... on avait la capacité de découvrir de nouveaux jeux, puisque avec l'émulateur, on pouvait gratuitement avoir tout un panel de classiques, et il s'est constitué...
Qui ne sont jamais sortis du Japon, par exemple ?
Et certains qui sont sortis du Japon. Et malgré l'arrivée de Microsoft, de Sony, où on fait toujours plus de polygones, plus de 3D, plus de photoréalisme, eh bien, il y a toute une partie de gamers, qui pouvaient être les mêmes hein, d'ailleurs, mais qui avaient envie d'autre chose. Et cette autre chose, mon cher Duracell, c'était l'âge, qu'on pourrait dire l'âge d'or du jeu vidéo, c'est... les classiques du 2D.
Oui, alors attention, entre classique et merde du 2D...
Oui, il y a eu des merdes. Après, je reprends l'expression de âge d'or du jeu vidéo, je ne suis pas aussi catégorique, je ne dirais pas que l'âge d'or c'est uniquement la 2D, on a eu des chefs-d'œuvre avec la 3D, Tomb Raider par exemple, mais un rétro-gamer, en tant que rétro-gamer, tu as envie de jouer à ce qui a été des succès.
En gros, les X-shooters, les V-shooters et les platformers 2D.
Oui, voilà. C'est,
mais il y avait aussi d'autres catégories de jeux qui ont disparu. Qui ont disparu, qui ont complètement disparu de la circulation. Par exemple, simulation de jeux que l'on pouvait faire dans un bar. Genre Shuffle Puck, genre le lancer de fléchettes,
Après tous ces jeux, ils se retrouvent souvent dans les jeux mobiles modernes, qui sont souvent des jeux typés arcade avec une action
non,
directe.
Non. Alors on ne va pas parler ici de jeux mobiles. On aura déjà assez de difficultés. Bonjour monsieur. On aura déjà beaucoup de difficultés entre la console, une analepse, une prolepse.
Oui, une analepse, une promesse.
Prolepse. Non, donc le truc, c'est bon, ça enregistre.
Oui.
Tout, 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 tout. 1, 2, 1, 2. Donc le truc, c'est qu'il ne faut pas confondre. Les jeux mobiles, je séparerai ça parce qu'on aura déjà assez de mal entre les jeux consoles. Les jeux de bornes d'arcade et les jeux PC.
Non, mais les jeux mobiles, c'est une catégorie à part. On peut simplement citer qu'effectivement, il y a ce côté arcade avec... moi, ce qui m'intéresse dans les jeux mobiles, c'est plutôt les premiers jeux mobiles parce qu'il y a un rétro gaming, malgré soi, c'est-à-dire on est obligé. On est obligé de faire du rétro gaming parce que la machine n'a pas les capacités.
Oui, c'est ça.
Alors que désormais, quand tu veux faire du rétro gaming sur un téléphone, c'est un choix artistique. Le téléphone est de toute façon largement plus puissant que n'importe quel PlayStation de l'époque.
Oui. Non, parce que par exemple, la NES. Ça clignotait les jeux en fin de vie de NES, la borne était à genoux hein. Par exemple Ninja Gaiden 2, ça clignote dans les speedruns maintenant, pourquoi est-ce que les speedrunners, ils tirent sur tous les sprites qui arrivent, c'est pour que la console ne lague pas.
Alors, justement, tu fais bien d'en parler, parce que c'est pour moi, c'est une partie essentielle du rétro gaming. C'est toute cette communauté qui est arrivée avec les émulateurs et dont est arrivée aussi une nouvelle manière de jouer à des jeux anciens. Hein, faut suivre, c'est les speedruns. Donne-moi la définition. Moi, si je suis pas d'accord avec toi, je dirais, je reviendrai dessus. Qu'est-ce que.
Tu allumes ton jeu, tu le finis le plus rapidement possible,
voilà.
Avec ou sans certaines contraintes.
Voilà, c'est ça.
Exemple, un jeu de dialogue, tu vas essayer de couper le maximum de dialogue possible pour arriver à la fin. Je sais que Octorius n'est pas d'accord, mais on peut même speedrunner un livre dont vous êtes le héros. En essayant d'optimiser le nombre de dialogues que l'on a et en switchant la console sur japonais pour avoir moins à cliquer.
Alors techniquement on peut, c'est juste qu'on avait discuté de ça en pré-enregistrement. C'est vrai que
et tous les jeux que on ne peut pas normalement speedrunner, on peut les powerplayer. Par exemple, il y a un jeu de football où le speedrunner ou le tasseur, celui qui fait un Tool Assisted Speedrun, ouais, va juste essayer de chambrer l'intelligence artificielle du jeu pour que par exemple il y a un chien qui apparaît sur le terrain ou alors on coupe le jeu, on fait apparaître des trucs qui sont pas censés apparaître, des sprites.
Le Tool Assisted, je vais donner la définition, c'est on utilise justement un logiciel qui va modifier le jeu en question et qui va nous permettre, normalement, c'est aussi utilisé pour le speedrun, de faire les combinaisons de coups ou les combinaisons de sauts à la perfection.
Alors, en fait, on ne modifie pas le jeu. Le jeu est identique.
Oui.
C'est la ROM d'origine. Mais avec des outils comme le RAMWatch, ce qui se passe aussi, les détections de collision, les apparitions d'événements scriptés ou pas, etc. Avec l'édition aussi de avant-arrière, tu vas essayer de faire une partition de musique pratiquement où le jeu sera fait soit le plus rapidement possible, soit avec certaines contraintes. Par exemple, il y a une run de Super Mario Bros absolument hallucinante où le tasseur essaye de choper tous les objets du jeu.
Oui.
Tous.
Donc c'est une très bonne transition, je te remercie. Ça me fait revenir aux règles dans le speedrun, parce que le Tool Assisted fait partie du speedrun. C'est les différentes catégories de speedrun ou de Tool Assisted speedrun. On les compte à peu près au nombre de 5. Donc tu as atteindre la fin du jeu le plus rapidement possible. Hein, c'est le speedrun classique. Soit de faire le 100%, ça veut dire terminer le jeu plus rapidement avec toutes les quêtes annexes, tous les objets, tous les items. Vraiment le faire entièrement à 100% et le plus rapidement. Ensuite, il y a le low, c'est-à-dire terminer le jeu le plus rapidement possible avec le moins de quêtes annexes, c'est-à-dire la ligne droite. Hein. Tu as le glitchless, ça veut dire attention, on n'utilise pas les bugs du jeu pour aller plus vite, on le fait tel que le programmeur a souhaité le faire, sans les glitches. Et sinon, il y a aussi le no major glitch, ça veut dire que, alors ça se détermine à l'avance, hein, parce que ce sont des compétitions, les speedruns. Quel bug on va autoriser ou non à faire.
Exemple dans Portal. Il y a des puristes à Portal. Pour faire une run, un speedrun de Portal, c'est la croix et la bannière. Mais il y a d'autres catégories quand même. Ça, c'est les catégories principales. Mais il y a des speedruns complètement pétés. Par exemple, faire une run de Super Mario avec le minimum de sauts possible.
Oui, c'est un lot, tu vois.
C'est une contrainte supplémentaire.
C'est une contrainte, ouais.
Ou alors le walkathon, c'est-à-dire qu'on va que marcher. Il n'y a pas de course. Ouais, Super Mario sans courir.
T'imagines,
c'est horrible. Mais ils l'ont fait.
Ou bien
tu as des runs pacifistes, par exemple en butant le moins d'ennemis possible pour un shoot'em up. Il y a des trucs absolument incroyables. Ou bien aussi, par exemple pour Metroid, tu as le reverse boss order. Tu commences par le plus difficile, tu commences par le plus difficile pour aller au plus simple. Et le jeu n'est pas prévu pour ça. Et tu as des contrats absolument horribles. mais tu as du. T'as tout ça, quoi. Tu as tout ça. C'est ce que les catégories qu'a dit Octorius, c'est que la face émergée. C'est que l'aspect émergé de l'iceberg.
Non, c'est très vaste. Moi, je parle des catégories les plus grandes qu'on aura retrouvées dans les compétitions. Compétition, d'ailleurs, qui, fut un temps, avait été vraiment mis sur le devant de la scène. Enfin, sur le devant de la scène, par Cœur de Vandale et...
Rilmiop. Et il y a des marathons caritatifs, des courses qui sont faites avec AGDQ, SGDQ, et l'émission que Octorius essaye de dire, c'est évidemment les deux émissions co-animées par Cœur de Vandale et CDV, et Real Myop, à savoir 88 miles à l'heure et Speed Race.
C'était, alors là, on revient dans les alentours de 2012-2013. Ils avaient importé ce concept de commentaire de vidéos de speedrunner.
Avec des défis en direct aussi.
Avec les défis en direct. Et puis, on avait vraiment un vrai commentaire de passionné. Parce que vraiment, Cœur de Vandale et Ryan Myop sont très bonnes connaissances.
Et ils ont fait eux-mêmes des speedruns sur Metroid, entre autres. Et après, il y a eu un projet complètement fou de la part de Real Myop et Cœur de Vandale, surtout Cœur de Myop et Twin. Et après, ça, ils ont fait 10 éditions. C'est l'ultime décathlon. Qu'est-ce que l'ultime décathlon ? C'est vous arrivez de vous débarquer, etc. Et vous avez X mois pour maîtriser le speedrun de 10 jeux au gameplay complètement différent. Et il y a un barème de points suivant que vous arrivez à le finir plus ou moins vite. Il y avait des speedrunners pratiquement professionnels comme Brother Main ou comme comment il s'appelait l'autre là enfin ça va me revenir mais et puis il y avait un gars qui a débarqué l'ultime décathlon 1 c'était plutôt entre Cœur de Vandale et Twin, c'était un défi qu'ils étaient fait à deux, mais le 2 et le 3 étaient ouverts à une communauté, ils avaient leur Discord, ils avaient leur site internet, etc. Et il y avait un gars qu'on ne connaissait absolument pas du tout, qui a tout raflé pour le 2 et le 3, un certain Devil Tifa, et qui a poutré tout le monde, y compris des speedrunners aguerris qui faisaient des exhibitions sur certains jeux. Par exemple, Brother Main qui avait son propre record qui était dans les 5 meilleurs mondiaux, ou bien qui avait un record sur Super Metroid.
D'ailleurs, de cette communauté est arrivé, bon, il y a des magazines spécialisés évidemment, comme Gros Pixel, et il y a aussi un site internet qui fait office de référence, qui est Twin Galaxies. Qui recense en fait les records de différents.
Alors oui, Twin Galaxies, c'était surtout sur le scoring.
Oui, parce que c'est justement là où était affiché le fameux celui qui avait fait bugger Pac-Man, Tony Mitchell, non, comment il s'appelle ?
Ouais, Mitchell, ouais, ouais, Mitchell, qui a fait bugger Pac-Man, qui avait, et puis il y avait des épisodes de triche absolument incroyables, et ensuite pour le, t'avais Speed Demo Archive pour les speedruns, c'était d'abord des joueurs de Doom et d'Unreal Tournament. Et ensuite, il y a tasvideos.org qui a pour les tool assisted speedrun. Et puis il y a des leaderboards, il y a des commentaires, etc. C'est assez drôle. Mais on ne fait que effleurer le sujet. Parce que pour faire du rétro gaming, il faut de l'ingénierie inverse. Faut faire du rétro engineering aussi.
Alors, c'est surtout pour faire un émulateur. Faut faire du reverse engineering parce que les consoles de l'époque, hein, la NES, la Super NES, bien Nintendo ne laissait pas traîner dans les magazines ou même sur le début d'Internet le fonctionnement total de leur console. Il a fallu deviner un petit peu comment ça marchait pour la recréer virtuellement. Et à cette époque, il y avait plusieurs émulateurs et il y en a un qui a été en 96 particulièrement puissant
pour les bandes d'arcade. C'est MAME. MAME.
Alors il y a MAME. Moi je parlais de. C'est le SNES 9X, le plus fiable émulateur NES. J'arrivais pas à le dire, j'avais besoin de le voir. C'est un agrégat d'émulateurs, un 96, qui est à ce jour encore l'un des émulateurs les plus fiables de la NES, Super NES et Super NES. Un Virtual Game Boy, Passofamie pour la NES aussi, Super Passofamie pour la Super NES.
Bizouk qui est très très bon. À savoir qu'il y a des émulateurs qui sont interdits de compète parce qu'ils font tourner le jeu plus vite que d'hab.
Oui, c'est le problème de faire tourner des consoles.
Mais il y a aussi un autre problème, c'est les ROM. Parce que parfois tu les trouves plus, tu trouves plus les jeux, etc. Les jeux parfois ils sont plombés, etc. Et puis il faut les craquer.
Et parfois la survie d'un jeu ne dépend que en fait des pirates parce que la boîte a simplement plus le jeu. Et c'est arrivé plus d'une fois. Alors j'ai pas d'exemple en tête parce que je les ai vus dans des conférences justement sur le jeu vidéo que certains jeux ont été définitivement perdus des débuts du jeu vidéo. Simplement parce que la boîte ne l'a plus produit et puis on n'a pas gardé les ROM du jeu. Et certaines fois où ça a pu être gardé parce qu'il y avait eu des versions pirates.
Et puis il y a certains émulateurs qui sont bons pour faire tourner les jeux, mais pas assez bons. C'est-à-dire, par exemple, pour DOS, il y a DOSBox. Vous me direz, DOSBox, formidable, youpi, bravo. Sauf que DOSBox, il ne fait pas tourner les interrupts des programmes en DOS et les managers qui s'occupaient de ça s'en foutent complètement.
Oui.
Hein, ce qui fait qu'il y a certaines vieilles démos, certains jeux qui tournaient sur un certain type de matériel et autres qui ne peuvent plus être émulés.
Tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est que les programmeurs, enfin les boîtes de programmation plutôt, n'ont pas cet esprit de conservation. Il n'y a pas les boîtes n'ont pas forcément la passion des joueurs.
Ça c'est un. Et puis deux, quand il y a des gens qui développent des émulateurs, ils se font bully parfois. Je rappelle le suicide de l'émulatrice de celle qui a fait Dolphin, qui a été tellement chambrée par 4chan qu'elle s'est suicidée parce que
c'est pas la boîte de jeu qui l'a poursuivie.
Non, c'est des salopards de chez 4chan qui l'ont poussée au suicide alors que elle était en train de développer Dolphin, le meilleur émulateur de GameCube.
GameCube, hein. Pourtant c'est une console assez.
C'est ultra dur à émuler une GameCube.
C'est ultra dur, c'était des mini CD, puis c'était une machine de 2003.
Qui avait un hard drive propre. Et puis, normalement, il paraît que pour faire tourner un jeu, il faut un matos 2 à 3 fois plus puissant que la console d'origine.
Exactement, oui. Oui, ça va sans dire. C'est un ordinateur qui est moins puissant. Mais on a, ça me fait penser que nous avions discuté de ça.
Les demakes de jeux.
Ouais, je vais y venir. Le rétro gaming a cette passion pour l'âge d'or du jeu vidéo. Eh bien, on a eu aussi une vague de jeux récents qui suivaient, qui refaisaient les
qui reprenaient une partie, toute partie des codes des jeux rétro.
Des jeux rétro. Il y avait aussi les demakes. Alors, tu sais, tu peux me dire ce que c'est qu'un demake?
Tu prends un jeu, ok, qui tournait sur une bécane puissante. Ou assez puissante, genre la NES,
ouais.
Super Mario sur NES, ouais. Et il y a des fous furieux qui l'ont programmé. C'est en douce, il faut passer par des BBS, par des trucs comme ça, parce que évidemment Nintendo, tout ce qui est ça strike à tout va, ça fait des procès, etc. Mais ils ont réussi à le programmer pour Commodore 64,
ouais.
Et qui est moins puissant.
Le Commodore 64 est moins puissant
que la NES. Oui, exactement.
Tu vois, c'est...
Donc le défi est assez prodigieux.
Mais on a des dans une autre catégorie, on a des programmeurs actuels qui programment pour des consoles de consoles rétro. J'avais vu une fois, c'était à une Japan Expo, quelqu'un qui vendait des jeux de Dreamcast, mais des jeux qui avaient été faits.
Oui, maintenant, le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on peut parler de rétro gaming à ce niveau-là ou pas? C'est toute la question, parce que, en fait, pour programmer ce genre de jeu, les gens, ils les codent sur du matériel moderne.
Oui.
Et après, ils font une importation sur la bécane d'époque.
Bah après, c'est là justement, c'est un peu le cœur du titre qu'on s'était donné.
Au-delà des définitions.
Est-ce que le rétro gaming, c'est l'esprit, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, ou est-ce que le rétro gaming, c'est l'hardware, c'est le saut technologique?
Et par exemple, le cas de figure le plus violent, c'est Donkey Kong Country. Parce que pour faire les sprites de Donkey Kong et de sa famille, nombreuse, hein, c'est il y a quelque chose. Hein. Genre il y a le zoo de Vincennes x3. Ils les ont fait sur Silicon Graphics.
Oui.
Donc des trucs encore maintenant tu rêves
ça aurait été impossible à faire avec la technologie de l'époque.
Oui, par exemple aussi Arkanoid sur Commodore 64, le gars il les avait programmés sur Atari ST ou bien sur Amiga avant de réimporter ça sur Commodore 64, parce que t'as des outils qui te permettent de programmer à la Commodore 64, à la NES, etc. Mais depuis un truc beaucoup plus puissant, et la compilation, la compression des données est évidemment plus rapide sur...
C'est fou de se dire qu'on peut faire tourner des jeux qui auraient été
impossible
à programmer. Et pourtant, la machine les lit.
C'est ça.
C'est ça qui est magnifique. Je me rappelle des intros de Commodore 64, des démos, pardon.
Oui.
Avec des graphismes absolument fantastiques.
Et spoiler, il y en a encore qui ont été primés cette année.
Ah, oui.
Donc 42 ans après le début de la commercialisation de la dite machine.
Ah oui, non, mais c'est... Après, c'est vrai que si on considère que le rétro gaming, c'est le saut technologique, on peut se poser la question que le jour où, si on a le même saut technologique avec la VR, donc la réalité virtuelle dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que tous les jeux consoles se font en VR, parce que ce serait la nouvelle mode de l'époque, comme il y a eu la 3D, eh bien, la 3D classique sur un écran plat, ce sera du rétro.
Alors, je t'arrête tout de suite. Ça ne sera pas le cas. Parce que il n'y a pas tout le monde qui peut supporter physiologiquement la VR.
Ouais.
Donc on aura un, comment dirais-je, une barrière invisible, un plafond invisible entre les gens qui supporteraient la VR et non, donc un facteur d'exclusion quelque part.
Oui, ce serait pas pareil que l'arrivée de la 3D, parce que l'arrivée de la 3D c'était vraiment d'un coup tous les jeux, mais en moins d'un an, se sont mis à être en 2D, en 3D.
Et parfois c'était pas une réussite, hein. Comme dirait un certain youtubeur de Perpignan.
quand il y a eu le Sonic par exemple, c'était un jeu qui était fait pour la 2D. Il y a des jeux, tu peux pas les... Par contre...
Non, attends, je t'arrête tout de suite. Sonic sur Dreamcast, c'était de la tuerie en 3D.
Oui. Alors il y a eu des belles réussites, mais moi
Non, franchement.
Je sais, j'ai déjà joué sur... Sonic... je sais plus, sur Dreamcast, je l'avais pas eu. Mais moi j'avais la Mega Drive.
Par contre, Earthworm Jim en 3D ou Bubbly, c'était vraiment pas ça. Je vous renvoie à l'épisode du jour du grenier, alias le joueur à grenier là-dessus, parce que là il grogne vraiment beaucoup. Et il a raison, même s'il reprend un personnage de Hungry Video Game Nerd. Mais là, il avait complètement raison. Parce qu'il y a des boîtes qui ont fait un saut, mais c'était le saut du cheap, quoi.
Oui. À
défaut d'avoir le cheap, on a le cheap.
Mais la 2D avait cette contrainte que le jeu doit se distinguer par son gameplay plus que par son histoire, alors que la 3D, on était sur une vision, on est toujours sur une vision assez cinématographique du jeu vidéo, et je me désole un petit peu. Alors on est passé un petit peu de la mode des QTE où tu sais tu dois juste sprayer un bouton pour faire défiler des cinématiques.
Non mais remarque, Dragonfield c'est que de la QTE, hein, quelque part. Genre faire courir ton bonhomme le plus vite possible, c'est de la QTE pure et dure. Hein. On n'a pas attendu la QTE, on peut faire de la QTE. Hein.
C'est vrai que le jeu vidéo essaye toujours, surtout depuis la 3D, essaye toujours d'avoir cet aspect de oui mais c'est comme un film.
Non. Parce que il y a une nuance intermédiaire, il y a 50 nuances de gris, mais il y a deux nuances de 3D. Il y a les jeux en 2,5D, c'est-à-dire les jeux 2D qui tournent sur un moteur 3D.
Ah oui, Rayman, par exemple.
Certains Rayman, exactement.
Mais ça fait partie de ce renouveau de la 2D. Qui est renouveau de la 2D, parce que c'est pas de la 2D, qui est arrivé en faisant justement de la belle 2D, fait partie malgré tout de la vague de rétro gaming.
Mais avant la 2D était bien, si tu avais un écran CRT. Il y a des jeux rétro maintenant sur écran plat, ça marche moins bien si t'as pas le shader.
Ah oui,
c'est la bouillie de pixels, alors que sur une CRT, oui. sur un écran cathodique, ça marche mieux.
C'est le paradoxe. Après, c'est un problème de conversion.
Non, c'est juste que ça a été codé pour que ça fasse bien sur la CRT. C'est un problème de hardware.
Mais maintenant, ça peut se corriger.
Avec le shader, mais alors, faut le chercher, le shader. Hein.
D'ailleurs, en parlant de ça, toujours dans le rétro gaming, ça démontre en fait le succès qu'a eu le rétro gaming, c'est la vague des mini. Tu sais que Nintendo a sorti la mini NES, la mini Super NES.
Il y avait la mini 64 aussi qui est sortie. Commodore 64, oui.
Le mini 64 de Commodore 64, ils avaient carrément sorti un faux clavier.
Oui,
c'est un peu dommage parce que quand je pensais que c'était vraiment déjà qu'il faisait la même taille que le clavier. Alors non, version mini certes, mais le clavier n'est pas fonctionnel, tu peux pas le brancher.
Ouais,
c'est dommage.
Ça aurait été un beau gimmick
si c'était un clavier que tu peux utiliser sur ton ordinateur. Ça aurait été parfait. Franchement les mecs, ça aurait pas coûté plus cher de faire juste
message au concepteur, si vous écoutez, vous nous refaites ça en mieux. Merci.
Je vous regarde.
Hein, alors, vous savez, les ventes de Noël 2024,
voilà,
on veut avoir ça sous le sapin, les gars. Hein. Vous vous démerdez. Hein.
Voilà. Merci, Duracell.
Ici, on dénonce. Hein. Ici, il faut que les choses soient dites. Ouais, nous voulons dépenser beaucoup de pognon pour des jeux de merde. Go Microïd.
Et donc voilà, c'est une vague de je dirais pas de nostalgie. Alors je sais pas.
Ben non, ça peut pas être de la nostalgie pour les gens qui l'ont jamais vécu. Par exemple, supposons que toi t'as jamais joué à Space Invaders. Supposons. Est-ce que quand tu joues à Space Invaders, c'est la nostalgie? Non.
Non, mais c'était partie de l'esprit, c'était mieux avant, tu vois.
Ouais.
C'est un peu ça, la nostalgie. Mais c'est vrai que, et ça avait souvent été dit sur des forums, que les petits jeunes, hein, les petits millennials, eh bien, ils sont assez friands de rétro gaming, beaucoup plus que ce que nous, à notre époque,
étaient friands. Parce que le rétro, c'est magnifié. Regarde ta collection de bandes d'arcade qui n'auraient jamais été l'une à côté de l'autre. Regarde le succès de la série Stranger Things. C'est un revival clinquant et vide de sens.
Oui, surtout que, petite parenthèse, Stranger Things ne donne pas une image des années 80.
Elle donne une image magnifiée. Parce que à côté du magnifique morceau de Kate Bush, il y avait combien de merde qui sortait sur les radios locales.
C'est clair.
Et les radios pirates qu'il y avait en 80, rappelle-toi, hein, les radios pirates.
J'ai vu le film sur les radios.
Mais on avait une radio pirate en Suisse qui était faite par Chavinsky, etc. Chavinsky, c'était une radio pirate qui n'avait pas de concession de la SSR, etc. et qui émettait à coin. Voilà. Alors. C'est le moment de se dire un au revoir tout à fait provisoire, mais au lieu de dire game over, on va mettre peut-être un petit peu 10 secondes ou 10 jours ou 20 jours pour faire un continue.
Parce qu'il y a tellement de choses à dire.
Et c'est tellement beau. Alors, j'annonce maintenant un des sujets du rétro gaming, la saison 2. DOSBox. Enfin, pas DOSBox. Exodus. Le projet Exodus.
On parlera du projet Exodus. On n'en dit pas plus.
Alors, le projet Exodus, c'est très exactement